anniversaire tombe le 30 juillet, si jamais vous voulez me réinviter à cette occasion. Je suis donc responsable du service patrimoine de la bibliothèque municipale de Chambéry. Alors peut-être certains d'entre vous seront surpris de ma présence ici parmi vous. Pourquoi la bibliothèque municipale et pourquoi Chambéry ? En tant que chercheur, amateur, curieux en histoire locale, vous êtes sans doute plus habitué pour mener vos recherches à fréquenter les services d'archives, qu'ils soient municipaux ou départementaux. Pourquoi donc la bibliothèque municipale de la ville de Chambéry en Maurienne ? La raison en est que la bibliothèque de Chambéry a une histoire très ancienne et qu'elle conserve un très important fonds ancien composé de documents de toutes sortes, des manuscrits, des livres, des estampes, des cartes postales, des archives, des journaux et des revues et des cartes et plans, avec une dominante autour de l'histoire locale ou régionale. Et nous pourrons revenir sur ces questions de terminologie. Qu'est-ce que à Chambéry nous entendons, enfin, qu'est-ce qu'à la bibliothèque de Chambéry nous entendons par le local ou le régional ? Dans la mesure où l'invitation de M. Pierre Généletti, que je remercie vivement, m'a semblé assez libre, je propose de profiter de ma présence parmi vous en commençant cette conférence par une présentation générale de la bibliothèque de Chambéry et de ses ressources pour l'histoire locale. Qu'est-ce qui, parmi nos collections, peut être utilisé dans le cadre de recherche ? Et puis je vous présenterai plus en détail, puisque vous l'avez compris, c'est un petit peu ma marotte, je vous présenterai plus en détail la très belle et très riche collection de cartes et plans qu'elle abrite. Et puis je finirai en vous proposant un exemple de travail de recherche que nous avons mené autour des cartes de Chambéry en collaboration avec un géographe de l'Université de Savoie, autour de quelques-unes de nos cartes. Et puis, je vous présenterai notre bibliothèque numérique patrimoniale Cambéria. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation certaines images accompagnées d'un pictogramme en noir et blanc. Cela signifie que les documents sont en ligne, librement et gratuitement, bien évidemment, accessibles sur Cambéria. Et vous pourrez, à l'issue de cette conférence, venir piocher parmi les cartes postales que je vous ai apportées. Vous avez l'adresse Internet. Et puis, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, j'aurai réussi à susciter l'intérêt de certains d'entre vous pour nos collections, qu'elles soient matérielles ou virtuelles. Il y a encore de très, très nombreux documents à explorer et à exploiter. Alors, la bibliothèque municipale de Chambéry, qui s'appelle aujourd'hui la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, certains d'entre vous la connaissent peut-être. C'est un bâtiment très moderne, un bâtiment de béton, de verre et d'acier qui a été inauguré en 1992. Il s'agit d'un architecte qui a été pensé par... d'un bâtiment pensé par l'architecte tessinois Aurelio Galfetti. Et pour ceux qui connaissent le Tessin, on reconnaît vraiment la marque architecturale de cette architecture tessinoise, le béton avant toute chose. Donc rien de prime abord n'identifie ce bâtiment ultra moderne au patrimoine et encore moins au patrimoine écrit. Et pourtant, le fonds ancien de Chambéry est très important et très ancien. Les origines remontent à 1780. 1780, c'est l'année où l'abbé Amédée Philibert de Mélarède, qui est un personnage très important et très influent des États de Savoie, lègue sa bibliothèque, qu'il avait héritée de son père et enrichie de ses propres achats, à la ville de Chambéry. Par son testament, il fait don à la ville de 5000 volumes et également de son cabinet d'histoire naturelle qui est allé alimenter le muséum d'histoire naturelle de Chambéry. Obligation était faite dans ce legs à la ville de Chambéry de rendre les collections accessibles au public et puis également de verser une somme de 5000 livres à une famille indigente de son choix, ce qui a été fait. La somme a été versée à la famille Molingal. Le 20 décembre suivant, donc 1780, le conseil de la ville accepte le legs et la bibliothèque ouvrira ses portes en 1783 dans le bâtiment de l'ancien hôtel de ville, qui était à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville de Chambéry. Depuis cette ouverture en 1783, la bibliothèque a de nombreuses fois déménagé. Elle a été hébergée dans le château de Chambéry entre 1797 et 1820, dans l'ancienne église des Antonins, et puis elle a fini sa vie avant la médiathèque en compagnie du musée des Beaux-Arts. À l'actuel emplacement du musée des Beaux-Arts, pareil pour ceux qui connaissent, vous avez sur le fronton encore aujourd'hui l'inscription musée-bibliothèque. Donc le musée et la bibliothèque de Chambéry ont constitué cette institution patrimoniale d'envergure et d'importance à Chambéry, donc ce musée-bibliothèque, qui a été inauguré le 14 juillet, date symbolique, le 14 juillet 1889. Et la cohabitation entre nos deux institutions va durer donc jusqu'en 1992, année de construction de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. La fin de cette cohabitation a marqué un partage des collections, c'est-à-dire que beaucoup de collections avaient été données à cette institution, musée-bibliothèque, et donc lorsque nous nous sommes séparés, les collections graphiques notamment ont été séparées en deux. Donc le musée a gardé ce qu'on a appelé les œuvres artistiques et la bibliothèque a récupéré les estampes documentaires. Donc nous avons un fonds d'estampes vraiment très, très important. Voilà, donc une cohabitation qui va durer jusqu'en 1992. Donc j'ai retracé cette histoire pour vous montrer un petit peu que l'origine de la bibliothèque est très ancienne, avec donc des fonds de conservation, ce qu'on appelle des fonds en bibliothèque, des fonds de conservation de grande ampleur. Le premier, c'est celui que l'on appelle le fonds Perpéchon. Il s'agit avant tout des collections d'origine, c'est-à-dire la bibliothèque de l'abbé de Mélarède, enrichie d'autres dons, acquisitions, legs au fil des siècles. Le nom de ce fonds vient de Félix Perpéchon, qui était un bibliothécaire archiviste qui a catalogué, donc décrit cette collection au tout début du XXe siècle et qui en a fait un catalogue. Donc à partir de la parution de ce catalogue Perpéchon, on considère que ce fonds historique est clos, on ne fait aucune nouvelle intégration et surtout, bien entendu, aucune extraction. Donc c'est un fonds encyclopédique avec des documents de première importance sur l'histoire sarde, des documents administratifs et avec un point fort autour de l'histoire naturelle et des voyages. Je vous ai mis l'histoire naturelle, agricole et économique du maïs de Mathieu Bonafou, qui est un livre avec des gravures, des lithographies absolument magnifiques. Et puis c'est également dans ce fonds Perpéchon que l'on trouve le document que nous avons l'habitude d'appeler notre Joconde à nous, puisque c'est le document le plus connu, le plus prestigieux de la bibliothèque. C'est le fameux bréviaire de Marie de Savoie. Je ne sais pas si vous le connaissiez, certains d'entre vous, oui, je vois des têtes. Donc ce bréviaire est un magnifique manuscrit enluminé de 700 folios, donc 1400 pages, qui a été réalisé dans la première moitié du XVe siècle à l'occasion du mariage de Marie de Savoie, qui était la fille d'Amédée VIII, avec Philippe Visconti. Ce bréviaire était figuré parmi les cadeaux de mariage offerts à Marie de Savoie. Et il est, pour beaucoup de raisons, absolument primordial pour les collections de Chambéry. La première raison, c'est que c'est un document qui a un ancrage extrêmement fort pour l'histoire de la Savoie, puisque ce bréviaire vient en quelque sorte symboliser la paix qui a été scellée entre le duché de Savoie et le duché de Milan. Il est donc vraiment important pour l'histoire de la Savoie. Cette paix scellée est rappelée sur la page frontispice avec dans l'écu les armes mêlées des Visconti et de la maison de Savoie. Donc Amédée VIII, qui était celui qui avait érigé les différents territoires en duché, donc en 1416, avait, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, offert sa fille en mariage donc à Philippe Visconti pour sceller cette paix. Donc ça, c'est la première raison de son importance, c'est une importance historique pour le duché de Savoie. Et puis c'est également un magnifique et prestigieux témoin de l'enluminure milanaise, puisqu'il a été entièrement enluminé à Milan par celui qu'on appelait le maître des Vitae Imperatorum, donc c'était l'enlumineur préféré du duc Visconti. Et puis, la dernière raison, c'est également parce que c'est non seulement un bréviaire, donc avec des initiales historiées qui racontent le texte religieux, mais c'est également un bestiaire. Donc, c'est-à-dire que de très nombreuses pages, on retrouve un bestiaire qui soit familier ou inconnu, puisque on retrouve des guépards, une gibelette barbue, une sauterelle, enfin voilà, de très nombreux animaux. Donc il est très connu aussi pour ce bestiaire. Et puis pour la petite histoire, il a été retrouvé dans le château de Chambéry sous des vieux papiers. Il avait ainsi échappé au fil des siècles aux différents pillages et destructions. Et il est entré à la bibliothèque de Chambéry entre 1820 et 1828. Voilà pour notre Joconde chambérienne. L'autre collection importante, c'est ce qu'on appelle le fonds des séminaires. Le fonds des séminaires, c'est la collection qui vaut à la bibliothèque municipale de Chambéry d'être classée. Donc nous sommes une des 54 bibliothèques municipales classées françaises en raison de la présence de ce fonds. Et pourquoi spécifiquement ce fonds ? Parce qu'il s'agit d'un dépôt de l'État, c'est-à-dire que ces collections n'appartiennent pas à la ville de Chambéry, mais à l'État. Ce fonds est constitué des bibliothèques, d'une partie des bibliothèques des trois séminaires de Savoie, donc Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne et Moutier. Et ces collections ont été déposées à Chambéry suite à la loi de séparation des églises et de l'État, donc la loi de 1905. Il s'agit là de la deuxième vague de confiscation dans l'histoire française. La première, c'était suite à la Révolution française, donc en 1792, les biens du clergé des émigrés avaient été saisis puis déposés dans les bibliothèques françaises. Donc c'est une collection qui est encyclopédique, avec bien évidemment une forte dominante en théologie, mais également en droit sarde. On y trouve également l'édition originale du dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau et l'édition de ses œuvres complètes. Donc vous avez ici une diapositive avec les différents ex libris, et marques de provenance qui permettent de retracer l'histoire de ces collections. Et puis, le troisième fonds que j'ai choisi de vous présenter, c'est le fonds régional Savoie, puisque c'est un fonds qui a été créé en 1960, pour partie par extraction de certaines autres collections de la bibliothèque. L'idée était de rassembler au sein d'une même collection tout ce qui concerne le patrimoine documentaire de la région. Donc notre objectif est vraiment de rassembler de façon exhaustive tout document dont le contenu intéresse la région. Alors, qu'est-ce que la région pour nous ? Nous considérons comme étant du périmètre de ce fonds régional pour les documents produits avant 1860, tous les documents qui concernent les anciens états du duché de Savoie. Donc ça, c'est notre périmètre avant 1860. Et puis, pour les collections contemporaines, nous considérons comme étant du ressort du Fonds Savoie tout ce qui concerne le département de la Savoie, donc vous voyez, hein, une aire d'influence relativement vaste, mais également tout ce qui concerne la Haute-Savoie. Donc pour nous, hein, le terme Savoie regroupe les départements actuels de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc c'est une collection qui se veut exhaustive, donc qui s'enrichit par des dons, des acquisitions, et puis également une collecte, puisque l'idée est vraiment de collecter tous les documents qui intéressent la Savoie, donc des livres bien évidemment, des brochures, des cartes et plans, mais également, comme le montre cette image, tout type de documents. Donc ça rend les conservateurs de bibliothèques un peu fous, hein, les fonds régionaux, puisqu'on ne sait plus vraiment où s'arrête où s'arrête cette collecte un petit peu frénétique que l'on entreprend. Donc vous voyez qu'on trouve dans ce fonds régional à la fois des documents anciens, des affiches, des estampes. Nous avons un fonds aussi autour des petits Savoyards, par exemple. Et puis pour les documents contemporains, nous allons collecter et nous allons acheter des documents très récents, donc tous les guides de randonnée, des livres de cuisine, les chevaliers de la raclette. Je ne sais pas si vos enfants ont lu, vos petits-enfants, les chevaliers de la raclette, c'est le grand best-seller du moment en Savoie. Et puis on va acheter, collecter aussi des jeux de société, par exemple, puisque nous conservons dans les collections un jeu de société question sur les pays de Savoie. Voilà, donc une collecte qui, comme je le disais, nous rend un peu fous. Donc on restreint d'année en année le périmètre de ce fonds régional puisque nous manquons cruellement de place. Donc c'est un fonds qui continue à s'enrichir par des acquisitions. Ça a bougé. Certaines acquisitions, ici un manuscrit que nous avons acheté en 2015. C'est un manuscrit donc, qui s'intitule « L'institution de l'ordre de la très haute, très illustre et très puissante Maison de Savoie ». C'est un manuscrit qui a été rédigé en 1588 à l'abbaye d'Hautecombe par Alphonse d'Elbène, qui était l'abbé commendataire de l'abbaye d'Hautecombe et qui était également historiographe de Charles-Emmanuel de Savoie. Ce manuscrit, il relate la création, l'histoire et les premiers membres de l'ordre suprême de la Très Sainte Annonciade, qui a été fondée en 1362, un ordre de chevalerie donc, qui était lié à la Maison de Savoie. Donc il débute par un récapitulatif de l'histoire de la Maison de Savoie, et puis après nous avons comme des notices biographiques sur les différents chevaliers. Donc c'est un manuscrit qui attend son chercheur, puisqu'il est totalement inédit, hein, il était inconnu. Donc dans les recensements qui avaient été faits des œuvres de d'Elbène, celui-ci ne figurait pas, il a été certifié authentique, et donc il attend une édition de texte, si certains d'entre vous sont intéressés. Et il a vraisemblablement fait partie de la bibliothèque des comtes et ducs de Savoie. Et puis un autre document que nous avons acquis en 2020, c'est le voyage de leur majesté dans le sud-est de la France, en Corse et en Algérie, en 1860. Alors sans doute connaissez-vous le catalogue qui a été publié par l'Illustration, par le journal l'Illustration, et qui, ce sont des gravures qui documentent ce voyage de l'empereur et l'impératrice en 1860, donc suite au rattachement de la Savoie à la France. Ce document, il est présent dans la plupart des bibliothèques françaises, puisque c'était un document officiel, mais celui que vous avez sous les yeux, est rarissime, donc il est référencé dans aucune autre bibliothèque, puisqu'il a été publié à 12 exemplaires. Il s'agit d'un document utilitaire qui a été réalisé par le grand écuyer. Le grand écuyer était un peu le maître d'œuvre, hein, celui qui s'occupait du protocole, des aspects protocolaires des rois et empereurs. Et donc ce document retrace les itinéraires, les programmes qui ont été mis en place pour le voyage de Napoléon III et Eugénie. On y trouve également des cartes. Et donc c'est un document vraiment, vraiment très intéressant puisqu'il permet de documenter heure par heure et jour après jour le voyage de Napoléon III. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Alors, j'en viens maintenant aux collections cartographiques de la bibliothèque municipale de Chambéry. Donc les collections sur lesquelles j'ai choisi d'insister un petit peu plus aujourd'hui. La richesse en cartes anciennes de la bibliothèque municipale est exceptionnelle et assez inattendue pour une bibliothèque, et encore plus pour une bibliothèque sur un territoire de montagne. On trouve plus volontiers ces grandes collections cartographiques dans les territoires maritimes. La bibliothèque conserve en effet une collection d'environ 200 atlas conservés dans le fonds historique Perpéchon et 4000 cartes anciennes qui couvrent des aires géographiques diversifiées depuis la représentation des anciens états de la Maison de Savoie, donc là ce sont environ 700 cartes, jusqu'aux 5 continents. La bibliothèque compte également dans ses fonds d'archives 200 anciens plans de Chambéry et de ses principaux bâtiments. Un exemple ici sur votre gauche, donc la façade du palais de justice civile et criminelle du département du Mont-Blanc, qui a été réalisée par l'architecte Trivelli. Et puis sur la droite, une carte de Chambéry et de ses faubourgs, qui est une acquisition qui avait été faite dans les années 2000. Donc là, normalement, excusez-moi, je vais faire. Voilà, vous avez. Pardon. Vous avez ce petit picto là en bas dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des documents que vous pouvez retrouver dans notre bibliothèque numérique. Donc, parmi cette riche collection, il est un autre point tout aussi surprenant à signaler, c'est la présence des archives du cartographe de l'Afrique, la Noix de Bissy, qui rassemble une importante documentation pour l'histoire de la cartographie européenne de l'Afrique. Donc ces cartes, ces atlas sont le fruit de différents legs, de dons, d'acquisitions qui ont, depuis l'ouverture de la bibliothèque municipale en 1783, façonné une collection originale qui illustre les grands courants cartographiques européens et également les échanges savants entre les différentes villes de France et de Savoie. L'histoire des hommes qui ont constitué ces collections ainsi que l'étude de la représentation géographique de ces cartes sont un témoignage essentiel, non seulement de la façon dont s'est défini l'espace savoyard, j'y reviendrai, mais également du rôle patrimonial majeur de la bibliothèque municipale de Chambéry. Donc, les origines de la collection, c'est un homme, Claude-Marie Pillet, et une institution, la bibliothèque du collège des Jésuites de Chambéry. C'est l'actuel lycée Vaugelas, pour ceux qui connaissent. Donc une grande partie du fonds de cartes provient de la bibliothèque du collège des Jésuites qui a été déposée à la ville de Chambéry en 1888. Ce collège avait reçu en 1828 la collection de cet homme, Claude-Marie Pillet, qui un ancien libraire et bibliographe à Paris qui était membre de l'Académie de Savoie. Donc Claude-Marie Pillet, il naît à Chambéry le 17 mai 1771 et dès l'âge de 16 ans, il montre un vif intérêt pour la géographie, comme en témoigne un carnet qui est conservé aux archives départementales de la Savoie et dans lequel il a, à 16 ans, donc, décrit et parfois dessiné les plans des communes de Savoie. Après avoir exercé des études de droit à Turin et exercé la profession d'avocat, il quitte le barreau pour se lancer dans des études de mathématiques. Et puis, avec la révolution qui survient bientôt en Savoie, il est forcé de partir pour l'armée et de quitter donc, sa profession d'avocat. À son retour, il va être, comme Rousseau, associé dans le bureau du cadastre de Chambéry et associé aux travaux de M. Raymond Aîné pour la rédaction du plan du cadastre. Et puis en 1802, il part s'installer à Paris, il va être employé dans les bureaux de l'ingénieur chargé des travaux du canal de l'Ourcq et puis dans différentes banques. Mais il va se consacrer alors beaucoup plus à l'étude et à la recherche qu'à ses autres travaux. Et il va par exemple se voir confier par Michaud la direction d'une quarantaine de volumes de la biographie universelle que vous avez sans doute déjà utilisé. D'ailleurs, hein, les auteurs de la biographie universelle et portative parlent de Pillet en ces termes. Logé dans un galta, vêtu grotesquement de vieux habits achetés à la friperie, ne vivant que de pain sec ou d'aliments grossiers et de mauvais fruits, sans feu chez lui, sans chapeau dans les rues, il bornait ses dépenses à acheter des livres et ses plaisirs à passer ses soirées dans les ventes. Et certaines cartes vont garder mémoire, vont garder trace de ces ventes aux enchères hein, qu'il a largement écumées à Paris. C'est le cas, par exemple, de cette carte de Bougainville. qui a, et c'est la mention manuscrite que vous trouvez dessous, qui a été achetée à la vente de la bibliothèque donc de Bouvignville le 11 décembre 1811, et qui serait une épreuve, une copie de la carte qui a été publiée dans l'ouvrage « Voyage autour du monde » par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte. Par Bougainville. Donc voilà, ça c'est une hors du département, enfin hors de la Savoie, c'est un de nos petits trésors cartographiques. Et puis en 1813, Pillet fait don de son vivant d'environ 100 volumes de différents ouvrages rares et précieux à la bibliothèque de Chambéry. Le conservateur de la bibliothèque, le médecin d'Aquin, écrit alors dans le journal du département du Mont-Blanc: il faut donc ici reconnaître ce caractère national des habitants de l'ancienne Savoie. Ils sont toujours attachés à leur patrie, ils la chérissent toujours, se plaisent à lui faire du bien. Ils y apportent de préférence leur fortune s'ils en ont dans l'étranger, leur pauvreté parce qu'ils se regardent tous comme des frères, et lui dévouent leur courage et leurs bras lorsqu'il s'agit de la défendre. Voilà un bel hommage. En 1826, Pillet meurt d'une phtisie au larynx. Et suivant ses dispositions testamentaires, sa collection de livres et surtout de cartes géographiques sera expédiée aux jésuites de Chambéry. Et puis, je vous l'ai dit, en 1888, la collection arrive à la bibliothèque de Chambéry. Les archives d'alors évoquent 1000 volumes qui ont été mis à la disposition du public lors de l'installation du musée-bibliothèque en 1889. Cependant, donc nous sommes en train d'effectuer un très gros travail de récollement qui nous permet d'identifier les marques de provenance de nos fonds anciens et pour le moment, nous sommes à environ 6000 volumes donc, qui ont intégré la bibliothèque. Les ouvrages de la bibliothèque de Pillet, nous les reconnaissons grâce premièrement donc, à la marque de provenance du Collège des Jésuites, mais également grâce à ce petit gribouillis, peut-être, en tout cas, cette petite inscription en grec que vous trouvez ici. Voilà, donc « Tone biblion pillé », voilà, avec un numéro d'inventaire. Donc c'est un travail de longue haleine, puisqu'il s'agit de prendre tous les volumes du fonds ancien, les uns après les autres, pour essayer d'identifier cet ex-libris de pillé. Et puis, en 1918, Edgar Mareuse, qui était membre de la SSHA, donc la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, va commencer bénévolement un inventaire des milliers de cartes géographiques anciennes qui composaient une partie de ce legs. À l'été 1918, 500 fiches ont été réalisées et puis le travail d'inventaire a été stoppé et c'est un travail que nous avons repris donc 100 ans après Mareuse puisque nous sommes en train de décrire toute cette collection qui comporte 1500 cartes de l'Europe et de la France et 1000 cartes des autres continents et quelques cartes célestes, donc une collection cartographique qui comprend des cartes réalisées entre le 16e et le 19e siècle. Et puis pour finir sur Claude-Marie Pillet, il est l'auteur de quelques traités imprimés, notamment des tableaux de mesures agraires de Savoie. Il a aussi produit quelques réflexions en orthographe ou en physique, des documents qui ne sont pas publiés mais dont les manuscrits sont déposés à la bibliothèque de Chambéry. Et puis, il a également effectué des travaux de copie de cartes et il serait, selon Michaud, l'auteur d'une carte sur la Savoie, un petit peu mystérieuse, mais dont je vais tout vous expliquer. Cette carte s'appelle « L'imitation de la Savoie en conformité du traité de paix du 30 mai 1814 ». Alors, ce traité de paix du 30 mai 1814 dont il est question est le premier traité de Paris qui a été signé après l'abdication de Napoléon entre la France et les puissances alliées. Ce traité va fixer les nouvelles frontières de la France. Et on trouve dans l'article 2 cette mention, cet article donc, le traité réduit la France à ses frontières telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Mais avec une augmentation de territoire. Donc 1792, hein, vous vous souvenez, c'était le rattachement de la Savoie à la France révolutionnaire, avec notamment la création du département du Mont-Blanc et du département du Léman. Donc là, en 1814, que va-t-il se passer ? Cette augmentation de territoire que l'on donne donc à la France, c'est en réalité une partie de la Savoie qui va être arbitrairement coupée en deux zones, donc la partie occidentale qui va revenir à la France, tandis que la partie orientale, donc le Chablais, Faucigny, Maurienne et Tarentaise, et également Nice, vont revenir au royaume de Sardaigne. Sur cette carte, hein, on voit donc la limitation, voilà, c'est cette frontière, ce double trait qui sépare donc la Savoie en deux, une partie à la France et une partie dans le giron du roi de Sardaigne. Donc du côté sarde, hein, il est évident que cet arrangement ne plaît pas à Victor Emmanuel, qui aspirait, lui, à récupérer tous ses états, y compris Nice et la Savoie. Donc ce mécontentement, il est exprimé par la voix de Thon de Revel, ambassadeur de Victor Emmanuel, qui va plaider des semaines durant la cause de l'unité nécessaire de la Savoie et surtout l'incongruité de cette frontière du 30 mai. Mais malgré tous ces efforts, le traité est signé et les frontières tracées. Et il faudra attendre 1815, donc le deuxième traité de Paris, pour que toute la Savoie retourne dans le giron sarde. Donc cette carte, elle est vraiment assez intéressante. Il en existe deux exemplaires, donc un autre se trouve également à la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit d'une des rares cartes qui va représenter ce territoire éphémère qui a donc existé durant 18 mois, donc cette Savoie coupée en deux. Je vais rapidement vous parler de la cartographie de l'Afrique, très rapidement, parce que mais c'est un de nos fonds qui rayonne beaucoup à l'étranger, donc on a beaucoup de chercheurs étrangers, américains notamment, mais également anglais ou belges, qui viennent consulter ce fonds. Donc ce fonds, la Noix de Bissy, c'est une collection que la bibliothèque a reçue en 1951. C'était par le fils de Richard de Regnault de la Noix de Bissy. Il s'agit de toutes les archives de la Noix de Bissy, donc ce cartographe de l'Afrique, qui avait entrepris à la fin du 19e siècle de dresser la première carte générale d'Afrique à l'échelle du 1/2 millionième. Donc c'est une carte qui a eu plusieurs éditions, qui comporte 63 feuilles, et dont la réalisation a duré plus de 15 ans. Et donc la Noix de Bissy a réalisé sa carte depuis la France, ce qui veut dire qu'il a juste été quelques années en Algérie, mais il n'a pas lui-même été effectué des relevés de terrain en Afrique, ce qui veut dire qu'il a beaucoup correspondu avec tous les membres des sociétés de géographie européennes installées en Afrique, avec les explorateurs aussi. Toute cette documentation, à la fois la correspondance, les cartes qu'il a pu réutiliser, tout ça est conservé à la bibliothèque de Chambéry. Donc tout est numérisé et accessible sur Cambéria si jamais vous avez envie de faire un petit voyage en Afrique. Cette collection de cartes et plans de la bibliothèque de Chambéry est une collection qui continue à s'enrichir. Je vous l'ai dit, hein, la bibliothèque a vocation à constituer un fonds régional exhaustif, et donc pour le fonds cartographique, nous possédons, nous conservons également une collection de cartes modernes, donc c'est-à-dire que nous achetons toutes les cartes IGN des différents territoires de Savoie, nous essayons de collecter les différents plans de villes de Chambéry et des principales villes de la région. Nous recevons aussi encore des dons. Je parle beaucoup de dons, mais c'est parce que c'est important de susciter des vocations parmi vous. Des dons, nous en avons reçu par exemple de la bibliothèque, de la cartothèque du Bourget du Lac, qui nous a donné toute une collection de localisations des phénomènes d'avalanche, donc des cartes assez intéressantes. Et puis, nous poursuivons les acquisitions. Donc l'année dernière, en 2022, nous avons acquis 6 cartes anciennes de la Savoie. L'idée étant d'avoir une collection la plus exhaustive possible. Ce sont également des collections que l'on retrouve en ligne. Donc vous avez sur cette diapositive l'adresse vers le bouquet des bibliothèques. Le bouquet des bibliothèques, c'est là où l'on va retrouver le catalogue en ligne de la bibliothèque municipale. Et puis, je vous l'ai dit, l'adresse de Camberia, la bibliothèque numérique patrimoniale de Chambéry, dans laquelle on retrouve tous les manuscrits médiévaux qui ont été numérisés, et puis beaucoup de documents iconographiques, beaucoup de cartes postales, donc nous avons des cartes postales de Saint-Jean-de-Maurienne, les cartes géographiques, les gravures, les estampes, voilà. Donc, je vous invite à aller découvrir cette bibliothèque numérique. Et puis, cette collection, elle permet aussi, je le disais tout à l'heure, de retracer l'évolution du territoire savoyard. Donc cette conférence, hein, initialement, donc sur les collections cartographiques, je l'avais proposée avec Jean Luquet, qui était le directeur du patrimoine et directeur des archives départementales de Savoie. Pourquoi ? Parce que nos collections sont extrêmement complémentaires et elles permettent de créer un ensemble patrimonial de valeurs exceptionnelles qui permet de rendre compte de la connaissance et de l'évolution du territoire savoyard. Je vous propose quelques exemples. On en parlait tout à l'heure. Les premières représentations cartographiques de la Savoie, elles vont apparaître sur les cartes de Ptolémée, donc qui réalisées au XVe siècle. Et puis cette carte de Ptolémée, elle va permettre aux géographes modernes d'enrichir et de compléter les territoires. Et donc la première carte que l'on connaît, la première carte régionale connue consacrée à la Savoie, c'est celle de Gilles Boileau de Bouillon, qui est datée de 1556. Donc l'unique exemplaire de cette carte est, que l'on conserve, est conservé en Allemagne, dans la bibliothèque du prince Herzog. Mais cette carte, on la connaît en Savoie par différents intermédiaires. Le premier, c'est la carte de Forlani que vous avez sous les yeux, qui est conservée aux archives départementales de la Savoie. Et puis, cette carte originale donc de Gilles Boileau de Bouillon, elle va être intégrée en 1570 dans les différentes éditions du géographe hollandais Abraham Ortelius, donc qui fait paraître en 1570 l'atlas qui s'appelle Theatrum Orbis Terrarum et qui est considéré comme le premier atlas moderne. Donc, c'est un atlas qui a eu un succès énorme, qui a eu de très très nombreuses rééditions. Et vous avez sous les yeux deux cartes. La première, c'est celle de l'édition de 1579, Sabodiae et Burgundiae Comitatus Descriptio. Donc une carte assez classique, qui s'appuie donc sur celle de Gilles Boileau de Bouillon, qui est orientée au nord et avec en pointillé la frontière de la Savoie. Je ne sais pas si... Ah oui, on ne la voit plus. Là on trouve cette frontière à l'ouest et puis la frontière avec le Val d'Aoste à l'est. Donc je vous invite à aller sur Camberia, aller la voir. Et puis la deuxième carte qui est dans l'édition de 1584 du Theatrum, une carte très, très largement simplifiée de la Savoie. Un autre exemple, donc là il s'agit d'une carte unique qui ne rend pas grand chose à l'image, mais que je vous invite aussi à aller voir sur Camberia. C'est une carte manuscrite qui a été réalisée par Jacques Fougeux. Jacques Fougeux était le maréchal des logis sous Henri IV et il était chargé d'organiser l'intendance des troupes en manœuvre ou en campagne. Et donc il a, à cet effet, dressé à la toute fin du XVIe siècle toute une série de cartes des différentes régions de France. Alors celle de la Savoie, c'est celle que vous avez sous les yeux. Elle est assez sommaire et on voit bien qu'elle avait une utilité qui était avant tout de manœuvrer les troupes. Donc c'était une carte utilitaire. Il n'a pas accordé beaucoup d'importance au relief, par exemple. Le relief est quasiment absent. Il a plutôt accordé de l'importance aux routes, aux voies de passage, aux ponts, bien évidemment. Et puis également, alors peut-être vous verrez mieux, normalement j'ai fait un zoom, également aux capacités d'hébergement des différentes villes. Donc c'est-à-dire que chaque, les villes sont accompagnées de petits numéros. Je vais vous en montrer. Par exemple, vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez là, donc un petit peu partout. Donc là, vous avez le lac du Bourget, qui permet de se repérer un peu, Arbin ici. Et ces numéros qui accompagnent les différentes villes correspondent aux capacités d'hébergement. Donc combien de places, combien de militaires est-ce que je peux loger dans telle ou telle ville. Donc cette carte, elle est assez difficile à lire, hein, même l'original, lorsqu'on a sous les yeux, puisqu'il y a deux orientations qui se chevauchent dans la même carte. Elle montre vraiment qu'elle avait un aspect militaire et utilitaire avant tout. Et je vous l'ai montré parce qu'elle n'est pas forcément très connue, mais elle est unique. C'est-à-dire qu'il en existait un autre exemplaire, normalement, à la Bibliothèque nationale de France, mais que je n'ai jamais réussi à voir. On considère que celle de Chambéry est la seule qui existe. Et puis c'est un petit peu une énigme aussi cette carte. Donc un géographe qui s'appelait Jacques Mille avait travaillé dessus. Et en fait on ne sait absolument pas à partir de quelle autre carte elle a été dressée. Il est peu probable qu'il ait effectué lui-même des relevés de terrain. Donc l'hypothèse est qu'il s'est appuyé sur une autre carte qui est aujourd'hui, qui a disparu. Alors de 1600, donc après cette carte, hein, entre 1600 et 1630, on va retrouver peu de cartes de la Savoie. Celle qui arrive après, qui est vraiment une carte, c'est le plus gros succès cartographique, hein, c'est la plus connue cette carte sur la Savoie. La première édition a été réalisée en 1630, c'est la carte du géographe hollandais Hondius qui a été réutilisée de très nombreuses fois dans le demi-siècle qui suit. Donc une carte assez de belle facture, donc là on voit qu'on n'est plus du tout dans une carte utilitaire, hein, mais vraiment dans une carte de prestige qui faisait partie de ces atlas hollandais que l'on achetait pour montrer qu'on s'intéressait au monde et que bien souvent on ouvrait sur un coin de table lorsque l'on avait des invités. Les reliefs, hein, on voit aussi, sont assez sommaires et il faut attendre la carte de Nicolas Sanson pour voir apparaître les routes, pour voir un relevé un petit peu plus précis de l'altitude et des montagnes. Et puis, dernier point, donc pour des raisons politiques évidentes, la Savoie n'a pas été cartographiée dans la grande entreprise des Cassini, donc cette fameuse carte de Cassini, pour des raisons politiques évidentes. Mais néanmoins, le royaume de Sardaigne peut s'enorgueillir d'avoir produit dès 1737 sur la base des plans cadastraux, donc que vous connaissez, hein, que l'on connaît sous le nom de map sarde, une carte générale de la Savoie qui est conservée aux archives d'État de Turin. Et cette carte, qui est au 1/12 millième, elle va être ensuite réduite une fois au 48 millième, et là, donc, cette carte est conservée à Vincennes. Et puis, une autre fois au 96 millième, c'est celle que vous avez sous les yeux, donc qui est conservée à Chambéry, qui est une carte manuscrite. Donc il en existe un autre exemplaire à Florence. Et cette carte est vraiment très, très intéressante, puisqu'elle est plus précise que la carte des Cassini, donc elle est à un niveau de précision plus élevé. Et l'objectif, hein, de Charles-Emmanuel III en 1733 était de dresser une carte générale du duché de Savoie à but militaire. Donc c'est assez rare, voilà, d'avoir une carte aussi précise d'un territoire régional. Voilà pour ce petit tour du territoire savoyard. Je vais juste terminer en vous racontant une histoire de recherche, vous montrer comment est-ce que les chercheurs peuvent s'emparer de nos collections, donc ici en l'occurrence des collections cartographiques, pour, n'ayons pas peur des mots, faire avancer la recherche. Donc la bibliothèque de Chambéry a été sollicitée par un géographe de l'Université de Savoie qui s'appelle Christophe Gauchon suite à une découverte qu'il avait effectuée dans les collections cartographiques des Archives nationales. Cette découverte, c'est une carte. Celle-ci, une carte de Savoie dont le titre de prime abord paraîtra surprenant. Ce titre, c'est « Carte du département du Fier, formée de deux arrondissements de l'ancien département du Mont-Blanc et d'une partie de celui du Léman ». Cette carte, elle était répertoriée dans un volume additionnel au catalogue général des cartes et plans des pays étrangers. Et il semblerait que cette carte avait échappé jusqu'ici aux chercheurs, malgré ce terme insolite de département du Fier, qui, pour nous, en tout cas pour moi, jusqu'à ce qu'on travaille dessus, ne signifiait rien de connu. Cette carte, elle renvoie à une période bien précise, hein, dont je vous ai déjà parlé, qui est cette période de 18 mois entre les deux traités de Paris, donc 1814 et 1815. Pendant ces presque 18 mois, l'ancien duché de Savoie, on l'a vu tout à l'heure, s'est retrouvé partagé entre le royaume de Piémont-Sardaigne et la France. Donc cet arrangement hein, territorial un petit peu inédit est déjà documenté et connu. C'est une histoire hein, que les chercheurs anciens et actuels ont documentée et connaissent. Cependant, les raisons qui avaient mené à cette partition étrange, voire saugrenue de la Savoie, étaient méconnues, de même qu'aucun inventaire complet de ces cartes pendant cette courte période n'avait été effectué. Et c'est un travail de recherche que nous avons mené ensemble à partir des cartes de Chambéry qui a permis de préciser la genèse de ce document, donc de cette carte du département du Fier. La carte qui a permis de retracer la généalogie, c'est cette carte qui a été réalisée par Massotti, qui est une carte de 1811, qui est à la même échelle, avec le même style de dessin, les mêmes lettrages. Donc ça, on le voit si on fait des agrandissements. On voit hein, très clairement que la carte du Fier, donc réalisée en 1814, s'est appuyée sur la carte de Massotti conservée à la bibliothèque de Chambéry. Donc dans les deux cas, il s'agit de cartes manuscrites hein, qui n'ont pas été imprimées. Donc la généalogie a été retracée et puis un travail aux archives départementales de la Savoie a permis aussi de retracer hein, les différentes étapes et pour parler, les parlementations qui ont eu lieu entre les alliés, la Savoie et la France et qui ont abouti à cette partition surprenante de la Savoie. Et puis c'est également un travail de recensement et d'inventaire dans les différents services d'archives et de bibliothèques qui a permis de mettre au jour pas moins de 8 cartes de ce territoire éphémère. Donc cela peut sembler peut-être à la fois beaucoup, en réalité c'est très peu hein, pour un territoire qui a eu une existence de 18 mois et pour lequel il a fallu très rapidement faire de nouvelles cartes qui n'existaient pas. Donc on a utilisé hein, des cartes qui existaient déjà, c'est celle de Massotti, pour retracer cette frontière et pour que les administrateurs hein, sur le terrain sachent exactement si lorsqu'on est à Saint-Jean-de-Maurienne, on se trouve en France ou en Savoie. Donc 8 cartes ont été recensées, donc 2 à la bibliothèque de Chambéry, au ministère des Affaires étrangères également, et puis aussi aux archives d'État de Turin qui conservent 3 cartes. Et par comparaison, hein, le Nord, les Ardennes ou la Moselle, qui ont eu également des limites éphémères entre les deux traités de Paris, n'ont pas été cartographiés, n'ont pas autant été cartographiés Christophe Gauchon a fait des recherches aux archives nationales, dans les archives départementales, et aucune carte de ces territoires n'a été retrouvée. Donc de ce point de vue, hein, la partition de la Savoie constituait la plus importante exception au principe de retour de la France à ses frontières du début 1792, et aussi l'innovation territoriale la plus spectaculaire par rapport à une Savoie, comté puis duché, dont les limites étaient restées quasi inchangées du côté de la France depuis 1355. Et cette fois-ci, véritablement pour finir, je vous ai mis deux articles que nous avons écrits au sujet de cette frontière et de ces cartes, donc à la SSHA et au comité français de cartographie. Je l'ai noté parce que c'est assez rare que... Bon, assez rare. Disons, en tant que bibliothécaire, nous considérons plutôt comme des passeurs. C'est-à-dire des passeurs, nous faisons en sorte que les chercheurs s'approprient nos documents. Donc c'est assez rare de se lancer du côté de la recherche. Mais voilà, c'est arrivé cette fois-ci. Et donc je vous invite à découvrir, si vous le souhaitez, ces documents. Le bulletin du Comité français de cartographie est accessible en ligne. Voilà, je vous remercie de votre attention.